nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas las casas, mujeres do mundo illadas. Ergámonos, mujeres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Anna Minsky. On avait déjà fait une première émission ensemble. Bonjour Anna.
Bonjour Nadia, bonjour tout le monde.
Alors juste, je la représente pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de la connaître encore. Après quelques années de vie nomade, Anna Minsky étudie l'archéologie, en particulier les outils en pierre de Néandertal. Depuis l'enfance, elle écrit des nouvelles, des contes et des poèmes, dont certains ont été publiés par différentes revues. Peintresse, depuis 2011, elle publie des articles sur l'écologie, le féminisme et la technocritique, critique écologique et féministe des techniques, sur le site Les Ruminantes. Elle a publié un livre, Sagesse incivilisée, qui est paru chez M Éditeur, dont on avait commencé à parler justement dans la première émission. On avait abordé pas mal de sujets qu'elle traite dans ses publications, dans son livre. Voilà, domestication animale, domestication masculine, le lien, la civilisation, la technocritique, biogynophobie, etc. Et c'était le podcast 96 et c'était le 11 octobre dernier. Donc aujourd'hui, Anna revient et le fil conducteur de l'émission sera les origines et les techniques des dominations masculines. Tout un gros programme.
Oui, c'est pas mal.
Voilà. Alors, dans ton livre, tu écris qu'il n'est pas possible de prouver une quelconque domination masculine, hiérarchisation ou division sexuelle du travail au paléolithique. Par contre, les nouvelles techniques qui apparaissent au néolithique modifient considérablement les relations humaines. Apparaissent d'ailleurs à ce moment ce que tu appelles les inhumations avec mort d'accompagnement. Et là, je vais lire une citation qui est dans ton livre de Henri Maspero, La Chine antique. « De quoi vivaient tous ces patriciens pauvres ? La carrière, pour eux, était d'entrer au service de leur seigneur. Ainsi enregistré, le jeune noble faisait partie de la maison du seigneur. Il était un de ses suivants, celui qui le nourrissait et le protégeait. En échange de quoi, il le servait, lui obéissait, le suivait à la guerre, en mission ou dans sa disgrâce, en exil, parfois même jusque dans la mort, se suicidant sur sa tombe. Ce suicide volontaire des services et esclaves sexuels a été mis en avant par Alain Testard pour expliquer l'avènement de l'État. Et je vais te demander de développer.
Oui, donc en fait, Alain Testard avait avancé cette hypothèse, cette théorie que peut-être que l'avènement de l'État était dû plutôt qu'au stockage ou à d'autres, à la fidélité des serviteurs, des esclaves qui suivaient les maîtres dans leur tombe en fait, c'est des morts volontaires. À partir de, bon, comme tu l'as dit donc, tout à l'heure au paléolithique, on n'a aucune preuve de l'existence d'une domination masculine. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. Ça veut dire juste qu'on ne sait pas. En tout cas, il n'y a rien qui démontre que cela existe. Par contre, à partir du néolithique et de la domestication animale, notamment vraiment la domestication des bovins et des ovins, il y a vraiment une modification, un changement conséquent au niveau des représentations, que ce soit des représentations iconographiques que l'on peut trouver dans les sanctuaires qui apparaissent, comme celui de Göbekli Tepe, donc. Göbekli Tepe, c'est en Turquie. C'est un sanctuaire où donc on a des monuments qui sont dressés, des piliers avec des représentations animales qui sont totalement c'est totalement différent de ce qu'on a au paléolithique. Et on a également au niveau des rites funéraires de gros changements aussi. J'en avais parlé la dernière fois. Mm-hmm. Voilà, des gros changements aussi avec l'apparition d'un culte des ancêtres. Mmh. Et de nombreuses études ethnologiques, ethnographiques, démontrent que plus le culte des ancêtres est important, plus la stratification sociale prend de l'ampleur, en fait, quoi. Donc c'est vraiment important comme changement, parce qu'on n'a pas du tout ça au paléolithique. Les inhumations, les quelques inhumations qu'on a sur des millénaires durant le paléolithique, concernent essentiellement des individus qui ont des maladies génétiques ou et ça ne démontre absolument pas, il n'y a pas de différence de traitement, que ce soit un homme, une femme, un enfant.
De hiérarchie.
Voilà, donc ça ne montre absolument pas l'existence d'une hiérarchie, alors qu'au néolithique, on en a clairement, et alors avec l'âge du bronze, ça explose complètement, quoi. On a vraiment des inhumations. Alors il y a un site qui est intéressant, qui est le site de Pommelté en Allemagne, qui date de 4000 ans. Et c'est une enceinte circulaire, il y en a beaucoup à l'époque qui se développent, qui sont plus ou moins grandes. Celle-ci fait 115 mètres de diamètre. Ouais. Et on a donc des humains, des hommes, des mâles, qui sont inhumés avec soin. Et dans la même enceinte, on a des fossés qui ont été creusés avec des restes d'animaux, d'enfants et de femmes qui ont été clairement sacrifiés. Là, ils ont été sacrifiés. C'est pas des morts volontaires comme en parle Testard dans son livre sur les morts d'accompagnement. C'est vraiment des sacrifices, quoi. Il y a vraiment des stigmates.
Comment on fait à savoir ça,
ouais. Voilà, c'est des stigmates qui démontrent clairement que c'est des morts violentes et que c'est pas. La différence de traitement aussi est importante. Pour identifier les morts d'accompagnement, c'est en fait on a celui qui a été inhumé, qui a un statut particulier, qui va être bien enterré avec soin, et tous les cadavres tous ceux qui ont été qui sont morts avec lui, qui l'accompagnent dans la tombe, sont à ses pieds. Par exemple, disposé à ses pieds, et puis ils prennent pas autant de soins pour. Et ça se développe beaucoup, notamment dans la culture de Maïkop, qui date de 2500 avant JC, et on a des tombes qui apparaissent à ce moment-là, qui sont clairement, qui démontrent vraiment les premières chefferies qui apparaissent. Et dans ce qu'a étudié Alain Testard, ça concerne vraiment très majoritairement des femmes, des concubines, des domestiques et des esclaves sexuels qui suivent le maître dans la tombe, volontairement. C'est aussi des études, bien évidemment, historiques. Il y a quand même des écrits, parce que sinon, c'est quand même difficile de savoir exactement. On sait qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants. Après, savoir si c'est des esclaves sexuels, c'est que c'est écrit, comme l'extrait que tu as cité tout à l'heure, quoi. Et cette fidélité pour un maître, on connaît aujourd'hui, grâce aux recherches en psychologie, psychanalyse, etc., qu'il y a des phénomènes d'emprise et des phénomènes dissociatifs qui font que, en effet, comme le syndrome de Stockholm, qu'on va développer un peu tout à l'heure, qui fait que, en effet, des personnes sont capables d'aller jusqu'au sacrifice pour quelqu'un qui pourtant les maltraite.
Ouais.
Voilà.
Oui, on sait que c'est aujourd'hui, voilà, on va en parler bien, donc manipulation, emprise et tout la pédocriminalité, etc. Ah oui, tu voulais passer.
L'extrait, voilà, pour parler du phénomène de dissociation, un témoignage de Maïlé, c'est Sophie Robert qui l'avait interviewé sur sa chaîne Dragon Bleu. Qui a été victime de nombreux de pédocriminalité dans l'enfance, de ses 2 ans à ses 18 ans, dans une secte, et qui donc raconte brièvement, enfin voilà quoi.
Voilà, alors on vous laisse écouter.
Pour moi, c'est très important de témoigner
de parler de ces communautés nouvelles parce que je trouve que la société, elle doit faire quelque chose, elle en a le devoir. Ils nous ont abandonnés complètement. Ces gens, ce sont des fous, ce sont des porcs. Le TDI, c'est quelque chose qui est montré dans le cinéma comme un machin un peu rigolo avec quelqu'un qui va tout d'un coup changer ou se transformer en monstre ou je ne sais quoi, mais c'est pas nous le monstre en fait. C'est ceux qui nous ont fait ces trucs horribles. Je sais pas si je peux parler de tout ce qu'ils nous ont fait, mais ils étaient adulés et l'Église est responsable de ça, la société est responsable de ça. La structure dans laquelle j'ai grandi, il y avait des policiers, des assistantes sociales qui venaient. Il n'y a jamais personne qui s'est dit que des enfants dans un lieu pareil, ils n'ont rien à y faire. Les assistantes sociales, elles nous envoyaient carrément des gens, des accueillis, c'est elles qui nous les amenaient. Parce que ils ne savaient pas quoi en faire, ils n'avaient pas de structure suffisante pour les accueillir, donc du coup, ils venaient se reposer sur nous, l'Église catholique. Elle a accepté ces communautés nouvelles parce que ça lui apportait du sang neuf, en fait. Et ça faisait de la nouvelle pub, c'était, comme tu as dit tout à l'heure, un genre de mai 68, mais en mode catho, quoi. Et en arrière, le gourou, il faisait des trucs. Moi, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs très précis où il me mettait. Il y avait une cage au sol. Il s'amusait avec deux Dobermans qui devaient nous poursuivre. Et nous, il fallait qu'on court et qu'on aille dans cette cage. Je devais l'escalader, je me souviens du choc du fer sur mes jambes quand je devais l'escalader. Je me souviens, l'ouverture, elle était par le haut. Je me souviens de la boue sur mon visage quand je devais me coucher dedans. Je me souviens de la pluie qui tombait à travers la cage quand on était couché dedans. Je me souviens des tables sur lesquelles ils nous posaient. On devait être tout nus. J'étais avec d'autres enfants. Je suis pas la seule victime. Je pense que dans ces structures-là, il y en a plein, en fait. Et qu'on est beaucoup à avoir vécu des trucs de ce genre-là. Sauf que il y a personne qui s'est inquiété de nous. Laisser des enfants vivre avec des adultes abîmés, qui prennent en charge d'autres adultes abîmés, c'est catastrophique.
Alors, donc c'était le témoignage de Maïté, victime d'une secte catholique, hein, c'est ça, Anna ?
Oui, c'est ça, oui.
Du coup, on va parler du phénomène de manipulation et d'emprise qui est toujours très à l'œuvre aujourd'hui.
Oula, ça fait...
C'est pas grave.
C'est impressionnant comme bruit.
Ouais, ouais. Oui, alors en fait, ce témoignage est très important parce que ça donne... Donc Sophie Robert a eu le... l'humanité de donner la parole à une victime de violence dans l'enfance, ce qui est assez rare en fait. C'est on ne leur donne pas suffisamment la parole et le silence participe à la reproduction en fait de toutes ces violences dans l'enfance qui sont assez structurelle en fait au final, puisque quand on lit Donc les essais tels que celui du berceau des dominations de Dorothée Ducy, on se rend compte que c'est vraiment une... Enfin, c'est énorme, ça touche énormément d'enfants, en fait, quoi. Et qu'il y a... elle parle d'une secte catholique, mais ce sont des choses dernièrement... Enfin, avec l'affaire Outreau, par exemple, on sait que ça concerne des... Enfin, qu'il y a des réseaux qui alimentent notamment les réseaux de prostitution, par exemple, quoi, et qui utilisent des mineurs. Et... Donc, à partir de comment c'est possible et comment ça fonctionne, on a tout un phénomène d'emprise, notamment ce sont des adultes. Alors, dans le cas, par exemple, de l'inceste, ce sont des proches. À 90%, ce sont des hommes qui commettent l'inceste sur des enfants qui sont mineurs, qui ne savent pas dire non, qui ne connaissent pas la sexualité, qui ne savent pas ce que c'est, qui pensent qu'on leur fait croire que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est vraiment de la domination et de l'écrasement de l'autre. Il n'y a pas d'amour dans l'inceste. Ça, il faut que ce soit clairement dit. Tous les témoignages d'enfants qui le disent en témoignent. Ils y ont cru, mais ils se sont très vite rendus compte que non, c'était vraiment de la domination, voire de la haine, et c'est dans le cocon familial. Donc ça a des dégâts, bien évidemment, très importants. Donc là, Maïlé, elle parle de ses problèmes de dissociation. Muriel Salmona a beaucoup travaillé sur les stress post-traumatiques suite aux violences que les enfants... aux violences sexuelles, qui sont les violences qui créent le plus de traumatismes et qui sont des traumatismes qui sont comparés à ceux que peuvent avoir les soldats qui partent en guerre, en fait. Donc c'est vraiment des traumatismes... très, très destructeur au niveau psychosomatique. Et les phénomènes donc de dissociation, c'est la mémoire, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique avec la mémoire traumatique et la dissociation. La dissociation, c'est le cerveau qui disjoncte face au stress, en fait, puisque l'enfant ne peut ni fuir, ni se battre. Et donc, du coup, le stress va... Pour pas qu'il y ait une charge de stress qui pourrait créer un problème cardiovasculaire, il va y avoir le cerveau qui va disjoncter, en fait. Et qui va, c'est ce qu'on appelle donc la dissociation, ça va créer une anesthésie émotionnelle et physique pour pouvoir supporter cette violence et pour pouvoir y survivre, en fait. Et ça va créer donc une sorte d'anesthésie, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Donc cette... d'amnésie. Et cette amnésie, elle est... Enfin, le souvenir est toujours... le souvenir est là. Mais il est mis sous cloche, en fait, quoi. Et cette mémoire traumatique, elle va apparaître des années plus tard, le souvenir pour revenir, où aussi il y a des phénomènes d'emprise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on répète cette situation, c'est pour ça aussi que les personnes qui ont... Les enfants et qui ont vécu ces violences ont tendance à répéter des situations qui enclenchent à nouveau... Voilà, ce système de dissociation, puisque ça les anesthésie. Et à partir du moment où il n'y a pas ce système d'anesthésie, la mémoire revient. Et c'est insupportable. Ce sont des douleurs. Elle revit vraiment ces situations-là. Et ce phénomène, c'est ce qui explique que, par exemple, dans les violences conjugales aussi, beaucoup de femmes qui subissent des violences conjugales ont subi des violences dans l'enfance. Et elles répètent, en fait, ce fonctionnement, parce qu'il y a aussi... Quand on écrase l'autre, on lui, enfin, il n'a pas de, comment dire, il se considère comme bon à rien, comme étant totalement, c'est la seule chose qu'il mérite, c'est ça en fait. Et certains se disent même que au final, l'amour, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de les écouter, même si c'est difficile. Ce sont des témoignages toujours difficiles, mais c'est important de les écouter. Il y a des enfants qui ont essayé de parler, qui ont senti qu'en fait. La personne n'avait pas envie, on veut rester dans le déni, on ne veut pas les écouter. Mais c'est eux qui souffrent, c'est eux qui doivent s'exprimer. Donc même si c'est dur à écouter, il faut les écouter, quoi. C'est très important de libérer la parole parce que le silence permet à ce système de se perpétuer. Mmh. Pas bien sûr.
Mmh. Et dans les enfants aujourd'hui ne sont pas écoutés, leur parole est discréditée. Donc c'est ce qui s'est passé aussi dans le procès Outreau, je crois que tu l'as dit. Et... aussi, ce que tu disais, qu'il y a une confusion dans le langage entre l'amour et la violence, les violences sexuelles notamment, c'est quelque chose que l'on entend toujours partout, dans les médias, mais même dans les tribunaux. En fait, ce langage-là, malheureusement, est utilisé par les juges Aujourd'hui, en France, on entend parler de caresses, d'attouchements, alors qu'on parle d'inceste, en fait. Et le mot inceste est encore très rarement prononcé dans les tribunaux, viol incestueux ou viol, même le mot viol est très très peu prononcé lors des procès. Et voilà. Et on a aussi l'impunité des ça permet en fait aussi de l'impunité des agresseurs, en fait. La tactique des agresseurs, elle gagne, en fait, puisque on utilise leur langage, etc. Et ça garantit aussi l'impunité.
Ce qui est important à noter aussi, c'est que depuis l'affaire Outreau, en fait, qui s'est déroulée de 2005 à 2018, la parole des enfants a été mise en doute. Et les condamnations, alors qu'il y a eu une augmentation de dénonciation d'inceste, et d'agressions sexuelles dans l'enfance par les enfants, de pédocriminalité,
dans la société,
40% de condamnations en moins,
voilà.
Et 25% de condamnations en moins sur les mineurs, parce que leur parole a été mise en doute. On considère que les enfants mentent. Mmh. Et c'est vraiment, enfin, c'est totalement scandaleux, quoi. Parce qu'on accepte, du coup ce genre de situation. C'est exactement ce que dit Maïlé, c'est-à-dire qu'il y a des adultes qui viennent, qui voient ce qui se passe, mais qui ne font rien. Un total déni. Et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Il y a eu plusieurs procès qui ont eu lieu, avec des enfants à Nîmes, par exemple, un éducateur qui a violé une enfant de 13 ans dans un foyer de jeunes, en difficulté. Il a été remis en liberté. On a considéré que c'était une simple atteinte sexuelle. C'est ça, c'est que beaucoup d'agressions, de viols, sont considérées comme atteintes sexuelles.
Sont requalifiées.
Voilà. Requalifiées, merci, je suis en train de chercher le mot. C'est ça. Mm-hmm. Et y a beaucoup d'histoires comme ça. Quoi.
Pratiquement en France, c'est presque tous les viols sont requalifiés, et particulièrement les viols d'enfants encore plus. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, il y a aussi, je t'avais parlé, il y a Andrea Bescon qui recense, qui est un peu une lanceuse, enfin, qui donne l'alerte un peu toujours. Donc, si vous voulez suivre sa page, tous les jours, 7-8 fois, enfin, elle donne des alertes, 3-4 alertes par jour, tous les jours. Elle en est écœurée par rapport à l'impunité des agresseurs, violences, que ce soit des violences physiques, des violences sexuelles. Sur les femmes et sur les enfants.
Il y a un sondage de 2020 qui donne... les victimes de l'inceste représentent 10% de la population française. 8 victimes sur 10 sont des femmes. Ça fait 78% des victimes sont des femmes. 22% sont des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes. Et que ça a des conséquences. Dans les agressions sexuelles dans l'enfance, Muriel Salmona, dans son livre Le livre noir des violences sexuelles, en parle très bien. Chez les femmes, ça a tendance à... Alors, c'est une tendance, bien évidemment, c'est pas systématique, mais ça a tendance à créer de la soumission et de la dépendance, alors que chez les hommes, ça a tendance à créer davantage de violence, en fait, d'agression à nouveau, parce que le petit garçon a plus de facilité à s'identifier avec le père, parce que c'est souvent le père, le grand-père, ou l'oncle, ou le grand-frère qui commet l'inceste, à s'identifier au garçon, quoi, qui agresse. Et à reproduire.
Donc, il risque de reproduire ce rôle-là, voilà, de l'agression.
Alors, c'est pas systématique, ouais. Heureusement.
Mais c'est quand même. Oui. Mais c'est très fréquent. Mm-hmm.
C'est un des fonctionnements qui est important à noter, parce qu'il y a une différence de réaction, du coup, entre hommes et femmes.
Et du coup, c'est pas juste une question de différence par nature homme-femme. Il y a aussi la question de la culture patriarcale dans laquelle on vit, qui crée cette différenciation.
Oui, parce que dans la société patriarcale, donc la femme est considérée comme une proie. Et l'homme comme un prédateur, enfin, ça fait partie de notre imaginaire, enfin, de l'imaginaire qu'on nous... Il suffit d'écouter ce que dit Zemmour sur la sexualité, par exemple, les masculinistes. C'est l'homme a une pulsion, un besoin, une libido plus développée que la femme et il faut qu'ils se servent, en fait, quoi. Et l'inceste dans la famille, donc Dorothée Ducy en parle très bien, c'est vraiment c'est une mise en pratique, en fait, de cet imaginaire, de cette, où les hommes sont habitués, enfin, pas tous, heureusement, mais beaucoup quand même, parce qu'il y a énormément de... Il y a quand même beaucoup d'inceste. Donc, c'est qu'il y a beaucoup d'agresseurs. Sont habitués à ce... Et on voit ça... je reviens donc au problème du néolithique, etc. C'est que il y a... C'est ce qui... Avec la domestication, il y a vraiment des techniques de domination qui se mettent en place où on s'approprie des êtres vivants et on nie. Et la dissociation, le fait de faire disjoncter le cerveau permet aussi de s'anesthésier et de se couper de son empathie. C'est ce qui se passe aussi avec l'agresseur, en fait. C'est que quand il agresse, il est dans son... C'est exact, ça, c'est un processus qui fonctionne à peu près de la façon similaire, mais il va y répondre d'une façon agressive. Pour pouvoir arrêter cette dissociation entre ce qu'il voit et ce qu'il veut faire. C'est-à-dire blesser, faire du mal. Parce que quand on touche un animal ou quand on blesse un enfant, on voit bien qu'on lui fait du mal. Enfin, ou alors, c'est qu'on est en état de dissociation et qu'on n'est plus en accord avec nos sentiments, nos émotions et notre capacité d'empathie. C'est une façon de détruire l'empathie, quoi.
Ah oui, si tu veux. Oui, voilà. Vas-y. Donc je vais lire un passage, enfin un extrait de ton livre. Page 74, Sagesse incivilisée. De nombreuses recherches en psychologie expliquent ces phénomènes de fidélité suicidaire. L'emprise, les mécanismes dissociatifs, le syndrome de Stockholm. Un sentiment de sympathie ressenti par la victime pour son agresseur qui conduit cette dernière à adopter une attitude allant jusqu'à la soumission totale. Cette fidélité suicidaire, d'autant plus quand elle est celle d'un esclave, nous choque. Or, penser qu'elle ne nous concerne pas ou plus est une erreur. Plusieurs formes de fidélité, moins spectaculaires mais tout aussi suicidaires, permettent à ceux qui détiennent le pouvoir de le garder et de le renforcer si nécessaire. À la fidélité personnelle, s'ajoute la fidélité aux mythes comme ceux de la nation, du progrès, de la science, de la civilisation et ceux de la nature humaine qui seront analysés dans la deuxième partie de cet essai. Dans des sociétés qui valorisent la guerre, la mort volontaire du ou de la fidèle est, dans des sociétés qui valorisent la guerre, la mort volontaire du ou de la fidèle est glorieuse, la soumission suicidaire une vertu. Alors là, il y a une citation. « La voie du samouraï se trouve dans la mort. Il faut méditer chaque jour sur la mort véritable, la mort inévitable. Chaque jour, le corps et l'esprit en paix, on doit méditer sur la mort, déchirée par les flèches, les balles, les lances et les épées, emportée par les vagues déferlantes, précipitée au cœur de l'incendie, frappée par la foudre, broyée par un grand tremblement de terre, tombant du haut de la falaise, emportée par la maladie, faisant sépucu à la mort de son maître. Chaque jour, sans exception, on doit se considérer comme mort. Telle est en substance la voie du samouraï. » C'est une citation de Lagacure de Josho Yamamoto dans le film Ghost Dog, la voie du samouraï de Jim Jarmusch. Une autre théorie sur l'apparition de la hiérarchie est tout aussi passionnante. Non, je vais peut-être m'arrêter là, ouais. J'étais partie. J'étais. Non, on mettra la référence de ton livre. Donc, voilà la fin de l'extrait. Et par rapport à l'impunité, peut-être qu'on peut parler du syndrome d'aliénation parentale. Alors peut-être que où tu veux expliquer ce que c'est que là, pendant ce temps-là, je vais aller chercher les actualités par rapport aux mères protectrices. Tu veux parler du syndrome d'aliénation parentale?
Oula. Oui, je peux en parler un petit peu. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est Richard Gardner. Donc c'est un psychiatre, un psychologue, qui a inventé ce syndrome. Hein. Il n'a aucune validité, mais il est utilisé assez fréquemment quand des enfants, lors de divorce, et que des enfants accusent le père, et souvent le père, hein, c'est quand même 90% des agresseurs, des incestueux, ce sont des hommes, qui accuse le père d'inceste, le père va faire appel à ce syndrome d'aliénation parentale. Alors il faut savoir que Richard Gardner a quand même fait l'apologie de la pédophilie, en disant que on est tous un peu pédophiles, la pédophilie peut améliorer la survie de l'espèce, les enfants ont une vie sexuelle et adorent séduire les adultes. Ce sont des choses écrites par Richard Gardner. Et donc il y a eu pas mal, il y a vraiment une explosion de cas de syndrome d'aliénation parentale ces dernières années, ouais. Alors que ça n'a aucune validité, mais vraiment. Et on se retrouve avec des situations où des mères sont accusées d'aliéner les enfants, de les pousser à accuser le père. Et c'est le père qui récupère la garde des enfants. Et il y a eu plusieurs dérives où les enfants le père a obtenu la garde des enfants et les enfants ont continué à être incestués, quoi, violés par leur père.
Voilà. Donc du coup, je vais prendre deux exemples récents qui sont très parlants de ça. Donc le cas de Priscilla Majani, qui est actuellement emprisonnée au Beaumet à Marseille. Donc à Aix-en-Provence, c'était le 23 novembre dernier, c'était ouvert le second procès en appel de cette maman qui avait choisi, contre son propre intérêt, de protéger son enfant. On avait demandé sa remise en liberté et ça a été rejeté. Le 4 janvier, on a su que sa remise en liberté était rejetée. Elle est toujours en prison, Priscilla. Après 7 heures d'audience, un procureur a déversé les théories masculinistes de Gardner, dont tu viens de parler, donc le syndrome d'aliénation parentale, pour camper un portrait de Priscilla en mère manipulatrice et aliénante, malgré les témoignages à charge contre le père. Après une très longue journée, deux avocates engagées auprès de leur cliente, le témoignage et la plainte de sa fille Camille, hein, parce que voilà, sa fille avait écrit une lettre pour témoigner qu'elle a subi l'inceste en fait. Donc cette lettre poignante a été lue et rien, ça n'a rien changé. Après une première audience éprouvante à Toulon, il y avait eu aussi donc une tribune et une liste de soutien impressionnante sur les réseaux sociaux qui avait été lancée aussi. Justement, il y avait Andréa Bescon et il y avait Eva Darlan qui avait lancé ça sur les réseaux sociaux pour soutenir Priscilla. Malgré tout ça, ça n'a pas été entendu. Donc, en fait, l'histoire de Priscilla, c'est que Camille avait 3 ans quand la garde de l'enfant était partagée. Sa mère était séparée de son père. Et à l'âge de 5 ans, Camille est revenue de chez son père en disant qu'il lui avait fait très mal en lui mettant son zizi dans les fesses. Donc, c'est ses mots à elle. Et qu'il lui a demandé de lui lécher le zizi. Et Priscilla, sa mère, avait porté plainte, mais évidemment, elle avait porté plainte, elle avait demandé protection, elle voulait tout faire pour protéger sa fille. Mais la justice, à l'époque, ne la croit pas, ne croit pas non plus l'enfant, qui pourtant a tout raconté. Cette plainte avait été classée sans suite en seulement 4 jours. Il n'y avait eu aucune enquête de l'ASE, un silence et un désintérêt de toutes les instances, et l'intérêt de l'enfant n'a jamais primé. De Priscilla, à ce moment-là, avait demandé la garde totale de sa fille. Sa garde lui avait été refusée. Elle avait multiplié les procédures judiciaires pour protéger son enfant sans succès. Tout ça s'est passé donc en France. Et c'est là qu'elle avait décidé de partir avec Camille en Suisse. Du coup, elles ont abandonné famille, carrière, amis et elles sont restées en Suisse à Genève. Priscilla a alors fait des ménages, a changé de nom, a élevé son enfant, Camille, et qu'elle a fait suivre par un pédopsie pendant toutes ces années. Aujourd'hui, Camille a 17 ans, elle est équilibrée, elle poursuit ses études avec succès. Et ce qui s'est passé, c'est que Priscilla a été extradée de Suisse, malheureusement. Donc, en février 2022, elles ont été retrouvées. Elle a été extradée de Suisse et c'est là qu'elle a été emprisonnée à Toulon. où elle a été condamnée en première instance à 5 ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende pour non-présentation d'enfants, soustraction d'enfants, dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère. Carrément, la justice s'est terriblement retournée contre elle, quoi. La même accusée d'avoir dénoncé calomnieusement son mari. C'est complètement dingue. La justice n'a pas cru en la parole de Priscilla, pas plus qu'en celle de sa fille qui maintient ses déclarations. Quel violeur, quel pédocriminel écope d'une telle peine aujourd'hui. Pour avoir tout quitté et avoir protégé sa fille, Priscilla paye le prix fort de l'indécence judiciaire. Donc le procès appel, donc je vous le rappelle, c'était le 23 novembre dernier après tout ça. Hein, et voilà, il y avait France, Femmes Solidaires Marseille, donc l'association qui est à Marseille, elles ont essayé de soutenir Priscilla. Moi, j'y étais pas, mais elles m'ont raconté. Elles ont eu accès à la salle d'audience. Priscilla, elle, était en vidéoconférence dans sa prison. Résultat des courses, le verdict, c'est 2 ans et 9 mois ferme de prison. Et elle doit verser 30 000 euros encore au père incestueux. C'est passé de 25 000 euros à 30 000 euros. Voilà. Alors, il y a un autre cas. Enfin, il y en a plein des cas, en fait. Il y en a plein. Mais un autre cas, c'est... donc, je vous le raconte. Justice pour Anna. Il s'agit de Anna Dame Stockholm, qui est passée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle aussi, le 11 janvier 2023. Je sais pas ce qui s'est passé après, j'ai pas eu de nouvelles. En tout cas, en première instance, en janvier 2022, elle avait écopé d'un an de prison ferme. Elle a pour avocate Pauline Bourgoin. Et donc voilà ce qui s'est passé, malgré de nombreux signalements des professionnels relatifs à la violence paternelle. La garde de ses 3 enfants a été transférée au père à cause d'un affreux rapport du très contesté Paul Bensoussan. Donc Paul Bensoussan, c'est un expert psychiatrique qui utilise systématiquement ce syndrome d'aliénation parentale et qui est dans tous les mauvais coups, en fait, puisqu'il est aussi dans l'affaire Julie, qui a été violée de ses 13 à 15 ans par 20 pompiers. Il est de tous les coups pour Priscilla aussi. Donc voilà, donc cette femme, Anna, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas pu voir ni entendre ses enfants. Même les hommes condamnés pour inceste ont, eux, encore le droit de voir leurs enfants. Le père a porté plainte contre Anna pour enlèvement directement après le transfert de garde de ses 3 enfants alors qu'elle se trouvait légitimement en vacances au Danemark. Cette femme se bat contre la justice pro-SAP qui a préféré la condamner en première instance à 1 an de prison et 23 000 euros d'amende pour soustraction d'enfants et donc a confié la garde des enfants au père incestueux malgré 10 signalements de professionnels pour violence et soupçons d'abus sexuels. Cela fait 8 ans qu'elle se bat pour protéger ses enfants. 8 ans d'inversion de culpabilité, 8 ans que la justice est complice de pédocriminalité, 8 ans que le père incestueux a le droit de voir ses enfants, 8 ans de maltraitance et d'agression sexuelle, 8 ans de combat. Il faut le voir pour le croire, cela existe bien en France. Donc cette mère a décidé de porter plainte contre Paul Bensoussan, donc, qui est un psychiatre reconnu, expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, de la Cour de cassation et de la Cour pénale internationale de La Haye. Waouh. Je ne savais pas en même temps, je me dis waouh. Enfin, je ne m'en rappelais plus. Le médiatique Paul Bensoussan se voit pointé du doigt pour des manquements à la déontologie médicale. Alors, début janvier, donc, la plainte de Anna relaie une plainte qui avait déjà été déposée contre lui auprès du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Yvelines en avril 2022 par 4 associations féministes et de protection de l'enfance, dont Comprendre, Défendre, Protéger l'enfance, Innocence en danger, l'association féministe CFCV, donc contre les violences je sais plus ce que ça veut dire, c'est FCV en fait, voilà, qui avait saisi le Conseil national de l'ordre des médecins et le parquet général de Versailles. Donc cette plainte dénonçait une violation et les obligations de Ben Soussan dans l'exercice de plusieurs expertises à titre privé et judiciaire. C'est une plainte qui est donc toujours en cours d'examen devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Île-de-France. Voilà. Donc cette fois-ci, donc c'est l'expertise qu'il a faite pour Anna, enfin contre Anna. C'est une expertise privée qui a été faite à la demande du père, donc du père incestueur, qui en fait la plupart des pères incestueurs aujourd'hui, ils savent très bien comment agir en fait. Ils savent très bien se retourner. Il suffit qu'ils portent plainte et qui s'adresse à ce fameux psychiatre et ça marche en fait. Donc voilà, le père avait demandé cette expertise en 2015 à Paul Bensoussan. Donc le père incestueur, c'est Alexandre F, militaire de carrière, voilà, et c'était dans le but d'obtenir un droit de visite et d'hébergement de ses trois enfants et ça a marché. Voilà, le plus choquant, dit la juriste Eva Sopcic, c'est que ce médecin, donc Paul Bensoussan, donne systématiquement son avis sur la fiabilité du dévoilement alors qu'il ne s'est même pas donné la peine d'examiner ou même de voir l'enfant. La seule personne qu'il a vue et auditionnée, c'est le père. Il n'a pas auditionné la mère. Voilà, donc faut vraiment se mobiliser contre ce SAP. Contre cette justice masculiniste et j'espère voilà que quelque chose va se passer grâce à toutes ces actions de mères qui se battent et d'associations féministes qui les soutiennent.
Du plus sensible par des putains de vicieux l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux l'amour qui nous rendra peureux même des plus belles. Même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font. Va certainement dévaler l'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour, ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, la lumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
la laissant éternellement belle au bois dormant.
Alors, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, maintenant, on va aborder un des principaux piliers et outils du patriarcat, outils de soumission des femmes et de domination masculine. On va parler du système prostitueur, puisque c'est... Voilà, je te laisse la parole.
Ah, c'est toujours... oui, alors le système prostitueur, tout à l'heure on parlait de la pédocriminalité, de l'inceste, et dans la continuité on a donc le système prostitueur. Donc la prostitution, c'est 90% de femmes qui sont prostituées. 80% d'entre elles sont d'origine étrangère. La majorité sont victimes de réseaux de prostitution et de proxénétisme. Et elles entrent dans la prostitution pour une grande majorité, entre 13 et 14 ans. Donc, c'est bien de la traite humaine en voie de l'exploitation sexuelle et de la pédocriminalité. Ce sont des mineurs. Beaucoup de ces femmes ont subi des violences avant d'entrer dans le système prostitueur. Il faut savoir que la situation donc, de prostitutionnelle est l'activité la plus à risque de mort par homicide. C'est donc un métier... Enfin, un métier, ce n'est pas un métier. Oui. C'est que j'étais sur les autres métiers qui sont moins dangereux. C'est mortel pour les femmes, en fait. C'est vraiment une exploitation qui est mortifère. Et qui concerne toute la société. Il y a à peu près 20% de la population masculine qui sont des clients de la prostitution, des clients prostitueurs en France.
Oui, c'est énorme. Enfin, je...
Oui. Et il faut savoir donc que l'activité prostitutionnelle en elle-même est une répétition d'actes sexuels non désirés. Et que c'est une atteinte à la santé, quelles que soient ses modalités. Elle entraîne des troubles alimentaires, des addictions, des troubles du sommeil. Le stress est permanent, une peur perpétuelle de l'agression, des violences des clients et des proxénètes. Elle entraîne des troubles psychosomatiques, anxio-dépressifs, des addictions, des dépressions et syndromes post-traumatiques. Toutes les survivantes de la prostitution parlent du phénomène dissociatif et de leur mémoire traumatique. Une mineure victime de la prostitution sur deux a subi des violences de ses parents donc, ou de ses beaux-parents. 6 mineurs sur 10 dont la mère a été victime de violences conjugales. Et les 2/3 des proxénètes ont également subi des violences dans leur enfance et leur adolescence. Donc là, on retrouve vraiment tout le système de violences subies dans l'enfance qui va reproduire cette domination, ce patriarcat. Ça commence vraiment dans le noyau familial.
Ouais, c'est intéressant ce chiffre, je ne le connaissais pas, mais c'est intéressant. Oui. Mmh.
Alors pour les clients prostitueurs, 60% d'entre eux sont mariés ou en couple hétérosexuel, 70% sont des pères de famille, 50% d'entre eux savent que la plupart des prostituées sont issues de la traite humaine en voie de l'exploitation et qu'elles sont des mineurs. Ça ne les dérange visiblement pas. Ils ont souvent un comportement addictif, sont fréquemment violents. 71% des prostituées ont subi des violences physiques avec dommages corporels commis par les clients et les proxénètes. 63% ont subi des viols. 64% ont été menacés avec des armes. 75% ont été sans domicile fixe pendant leur parcours. 89% d'entre elles veulent sortir de la prostitution. Il faut savoir que depuis la légalisation en Allemagne, la demande a augmenté de 30%. 30%. Et il y a une explosion de la traite humaine en vue de répondre à cette demande, bien évidemment. Ce qui modifie aussi... quand on voit... Alors, il y avait aussi intéressant, c'est que, par exemple, en Suède, on n'a plus que... Depuis qu'il y a la loi abolition qui est passée en 99, 4,9% de clients prostitueurs. Et dans les pays où elle est légalisée, les chiffres explosent, quoi.
Oui, oui. Oui, dans les pays où elle est égalisée, j'ai lu que les hommes prostitueurs, les clients, c'est pas 20% comme en France. Déjà, 20%, c'est énorme. Mais en Allemagne, je sais pas, c'est 65% d'hommes. Du moment que c'est banalisé, un travail possible, allons-y, hein, puisque c'est permis, puisqu'on nous le fait. Voilà. C'est vraiment.
Aussi, faut savoir que. Il y a les hommes qui visionnent fréquemment des films pornographiques seraient 3 fois plus nombreux à acheter des actes sexuels. Et la pornographie, c'est aussi, ça rentre aussi dans ce système prostitueur, avec également de la pédocriminalité. Il y a eu plusieurs scandales ces derniers. Alors, je retrouve plus le. Il faut que je parle vraiment devant le micro, en fait.
Non, non, comme ça.
Comme ça, c'est bon. Je retrouve plus le. Enfin, sur le net, il y a plus de 250 000 vidéos qui circulent, qui sont des viols d'enfants. Il y a eu tout un scandale aussi avec Pornhub dernièrement, où plus de la moitié de ces vidéos, c'était des viols et de la pédocriminalité. Et aujourd'hui, des enfants à partir de 8 ans peuvent accéder à ce genre de vidéos, ce qui modifie considérablement le rapport à la sexualité. Ça donne une vision de la sexualité qui n'est pas de la sexualité d'ailleurs, c'est de la domination, c'est de la violence. Ça n'a rien à voir avec une relation sexuelle avec un être humain que l'on respecte et qui a envie de partager cette relation. Quoi. C'est vraiment une prostitution filmée, c'est comme ça qu'on appelle la pornographie.
Tout à fait. On a un petit problème de micro. On avait 2 micros, mais on n'en a plus qu'un. Donc, c'est pour ça que c'est moins simple pour nous. Voilà. Donc, tu cherchais les chiffres.
250 000,
voilà.
C'est ça. 250 000 vidéos. Notamment sur le site Welcome to Video.
Mm-hmm. Ouais. Malheureusement, la France est un des premiers pays avec le plus de vidéos de porno-criminalité. Donc, on détient un bon petit record. Peut-être qu'on peut passer un témoignage de. On a une. On le passe, Anna, le témoignage ?
Oui, oui, oui. Okay. Oui. Je pense qu'on peut le passer, oui.
Ok. Donc, voilà, on a un petit témoignage d'une femme qui était piégée dans la prostitution, dans le système prostitueur, et qui a écrit un texte qui est en fait une réponse éloquente au prosélytisme proxénète qui envahit nos médias, nos cinémas. C'est un témoignage important sur la réalité du système prostitueur à partager en réponse au film d'Anicia Bonnefond, La Maison, qui est en fait le film qui a été tiré du livre d'Emma Baker. Voilà, c'est Johanna du collectif Abolition Porno Prostitution qui.
Je suis tombée dans la prostitution en 1995. Tombée, oui, comme on tombe dans l'alcool ou une drogue dure, mais il n'y a pas de véritable plaisir. Je pourrais donc plutôt dire que j'ai attrapé un virus. Une maladie mortelle pour laquelle on n'a pas de vaccin. J'y suis tombée et je ne sais pas si on peut s'en sortir un jour. J'insiste sur le mot « tomber » car on entend maintenant qu'il y aurait de l'ascension sociale possible en devenant putain. Ceux qui disent que la prostitution est une prise de pouvoir pour les femmes, une ascension, savent-ils de quoi ils parlent ? Ils ne prennent en exemple que celles qui se sont reconverties, qui ont quitté le milieu, ou qui n'ont pas été prostituées longtemps. Celles qui s'en sortent. Non, je crois pas que l'on en sorte indemne. Et d'ailleurs, moi, tant d'années après, j'y suis encore. Pourquoi on ne s'intéresse pas à toutes les femmes qui sont prostituées dans notre pays ? Pourquoi ma voix ne compte pas ? Parce que nous n'avons pas accès aux médias, que nous n'avons pas la possibilité de faire autre chose pour payer nos loyers, que nous ne sommes pas célèbres, contrairement à Zaya ou d'autres, qui ont acquis cette notoriété, qui sont devenus mannequins, écrivaines, stars du cinéma. C'est ça. Pour eux, la prostitution, c'est du cinéma. Comme pour l'actrice porno, qui est une variante de pute. Celles qui sont connues et que l'on écoute. Celles que l'on invite partout sont toujours les mêmes, celles qui s'en sortent, tiens donc, qui font de cette expérience une force. Combien sont-elles, concrètement? On pourra toujours faire dire ce que l'on veut à des chiffres. Je pense pas que celles qui vantent les mérites de cette activité de service sexuel représentent plus d'1% des femmes prostituées. Pourtant, c'est cette minorité qui est mise en avant, que l'on expose partout et que l'on entend. Les millions de femmes mortes, nous, les esclaves sexuels de notre monde, on ne nous écoute pas. Et chaque fois qu'il y a un débat sur le thème de la prostitution, qu'ils prétendent donner la parole aux concernés, on nous fait taire. Ils préfèrent continuer à élaborer des discours qui se veulent intellectuels sur le travail du sexe libérateur, avec tous ces best-sellers et tous les gens qui plaisent au grand public allant toujours dans leur sens, leur idéologie toxique. Un de mes potes, qui ignore tout de ce que je fais à côté et se croit progressiste, m'a dit hier, super content, qu'il y aura bientôt un film adapté d'un livre qu'il a trop kiffé. Un livre sur une jeune femme qui se prostitue volontairement. Ils ont mis 2,6 millions d'euros de budget pour soutenir ce discours. Être pute, c'est cool, c'est pas pire qu'être ouvrière, c'est même beaucoup mieux et épanouissant. Mais qui a écrit ce truc? Comme la plupart des livres qui triomphent partout, c'est écrit par une femme blanche, issue d'un milieu socio-professionnel normal ou d'une famille aisée, qui a donc décidé de se prostituer et qui ne le regrette pas une minute. Contrairement à l'immense majorité des femmes en situation de prostitution qui, elles, ne l'ont pas décidé et qui sont pauvres, racisées, immigrées. Et ce seront malgré tout les privilégiés, loin de notre quotidien, qui se prétendront nos porte-paroles. L'imposture de cette écrivaine avait été démontrée, mais quand bien même, si elle l'avait vraiment un peu testée, de faire un peu la pute, je m'en fiche, ça change quoi? Ce roman me fait penser à des riches aristocrates qui iraient passer quelques nuits dans une tente pour savoir ce que ça fait d'être sans domicile fixe. Oh, dormir dans la rue, c'est tellement amusant! Sauf qu'à tout moment, ils peuvent repartir chez eux, dans un appartement des beaux quartiers de Paris, 150 mètres carrés, bien au chaud à l'abri de la pluie et des agressions, dans un endroit sécurisé. Idem pour la madame encensée. C'est facile de dire « Vive la prostitution !» puisqu'elle était libre à tout moment d'arrêter. Son livre a fait l'unanimité. Vanter la prostitution comme un métier, s'appeler à la droite, comme la gauche. Même les féministes sont avec elle. Libé, Le Figaro, Le Monde, Le Point, France Culture, Philomag, Cosette, Télérama, Les Un Rock. Les sites de tous bords se sont emballés pour cette tricherie. Ils donnent des prix littéraires, des Césars. Les anciennes putes réussissent et s'enrichissent. Pourquoi donc des productions financent encore un film pro-prostitution? Parce qu'il correspond à leur fantasme. Depuis Belle de Jour à Pretty Woman, c'est ce que la foule veut voir. La pute heureuse. Surtout canon, comme Catherine Deneuve ou Julia Roberts. Pas une vieille ravagée par les années de pratique. Mais merde, être pute, c'est pas du cinéma. À croire que ça arrange donc tout le monde dans notre société et qu'il y a un système bien en place d'industrie du sexe qu'ils veulent continuer à entretenir, qu'ils se font un max de thunes grâce à l'utilisation des femmes. Allez dire aux milliers de Roumaines et maintenant aux réfugiés ukrainiennes que c'est une formidable émancipation, le travail du sexe. Allez voir mes copines asiatiques et africaines sans papier, et même les françaises. Pourquoi celles qui ont du succès sont dans cette mouvance pour le travail du sexe? Pourquoi personne ne parle de Laurence Noël, Brigitte Bianco, Linda Susan Borman, Karen Bach? Pourquoi n'y a-t-il pas de publicité pour Nelly Arcan, Rachel Moran, Karine Bernfeld, Andrea Dworkin? Pourquoi on n'écoute pas toutes les anonymes qui crèvent, sont tuées ou se suicident pour sortir, enfin, de cet enfer? S'il vous plaît, allez discuter vraiment avec mes collègues de misère, mes sœurs de trottoir, d'internet et des bordels officiels en Europe, comme si avoir une fiche de paix changeait les choses. N'allez pas croire que je suis une victime de la traite. Moi aussi, je suis officiellement une pute comme il faut. Je suis une pute exemplaire pour les clients. Je le sais, avec moi, ils ne culpabilisent pas. Je n'ai jamais été exploitée par un proxénète. J'ai choisi la prostitution. Mais comme si ça changeait le fond. Ces violences que l'on doit subir chaque jour, ces verges dégueulasses que l'on doit se prendre dans nos gorges, nos vagins, nos culs en sang. Je ne peux évidemment affirmer que la prostitution heureuse n'existe pas. Après tout, comme avec l'inceste, les exceptions, on en trouve toujours. J'ai rencontré une femme qui a été violée par son père et disait avoir apprécié le fameux inceste consenti comme le garde des Sceaux voulait l'inscrire dans la loi. On va donc défendre l'inceste auprès de notre population pour le rendre totalement légal et normal? Cette femme qui se dit épanouie après ce viol par son père va parler au nom de toutes les autres, les fillettes dont l'enfance ou l'existence entière ont été détruites? Est-ce qu'un jour on regardera enfin tous ces livres, films, ces discours omniprésents sur la prostitution comme on commence à lire aujourd'hui les livres de Matzneff avec effroi et révolte? Les voir pour ce qu'ils sont, une apologie du crime. Mais je risque de disparaître avant ce jour-là. Dans notre pays, il y a des tas de femmes connues, là encore féministes, qui ont défendu le droit des violeurs et pour que les hommes aient la liberté d'importuner. Le MeToo, ça n'a servi à rien du tout. Je peux le dire maintenant, je ne pouvais pas le faire en 1995. Je suis une pute abolitionniste. Je suis pour que chaque femme puisse sortir de la prostitution, que plus aucun homme n'achète nos corps. Mes sœurs de bordel et moi, on échangerait tout de suite nos vies contre la vôtre. Contre les vies des personnes qui n'ont jamais été prostituées. Ou alors contre les vies de celles qui n'y ont fait qu'un petit tour de manège divertissant. Celles qu'on voit à la télé affirmer que c'est un métier comme un autre. Avec en renfort, les gauchistes, soi-disant révolutionnaires, qui sont au final les mêmes que les catholiques bourgeois, le néolibéralisme au summum, la soi-disant subversion de ces pseudo-révolutionnaires, j'ai pu la vérifier ce matin en allant voir un client dans une superbe villa, en grande banlieue chic, avec des écoles privées, une ville qui commence par V, où ils vont à la messe le dimanche et où on voit encore au sol sur les trottoirs plein d'inscriptions anti-mariage gay, anti-PMA, anti-avortement. Dans la vitrine de la librairie, où il y a quelques mois encore je ne voyais que des livres sur le pape François, et l'éducation religieuse des enfants était mise en avant, au milieu des machins sur la reine d'Angleterre, une écrivaine, événement de la rentrée littéraire, et qui prétend parler en notre nom pour faire sa propagande gerbante. Ok, c'est que du commerce, mais ça en dit long sur ce qui se vend là-bas aussi. Les bourgeois cathos ne lisent pas ça pour se renseigner sur leurs ennemis, mais parce qu'un grand nombre des idées de cette écrivaine sont les leurs. Concrètement, celle qui est présentée comme rebelle est totalement mainstream, consensuelle et inoffensive. Prenez la prostitution, c'est servir le capitalisme en place. Continuez à entretenir les schémas qui sont là, depuis des siècles, la domination masculine et la distinction « maman putain ». Sur la table du salon, mon client avait le livre en question, parce que, bon, il est féministe lui aussi. Il pense limite faire une bonne action en payant pour mon cul. Parce qu'il me traite correctement, que c'est le plus vieux métier du monde, etc., etc. Tous ces gens vivent surtout dans une autre réalité, un déni égoïste. Comme avec la pollution et le réchauffement climatique, ils prennent toujours l'avion pour leurs vacances au bout de la planète. La canicule, ils n'en ont rien à foutre, ils ont la clim. L'inflation, toutes ces personnes pro-prostitution ne la voient pas au même niveau. Elles ne savent pas ce que c'est l'angoisse du frigo vide, de n'avoir rien à bouffer, ne pas pouvoir nourrir ses enfants, de voir le prix de la farine augmenter, le ticket des courses alimentaires de base qui a doublé. Moi, je ne vais pas pouvoir dire à mes clients « La pipe, c'est comme le paquet de pâtes, c'est plus cher à partir d'aujourd'hui. » Non, non. Mes tarifs ne sont jamais revus à la hausse car aucun client ne l'accepte. Et n'allez pas me dire que la législation résoudrait le problème. La concurrence y est encore plus rude. Mes collègues des Pays-Bas, d'Allemagne ou d'Espagne gagnent de moins en moins d'argent au fil du temps. Alors je ne vous connais pas personnellement, hein, mais je me permets de vous demander, Emma, Coralie, Virginie, Ovidie, Maya, Camille, on troque nos comptes bancaires? Et la prochaine fois que vous êtes confrontés à ma condition, tous les autres qui m'avaient entendu, hein, promis, au lieu de donner votre thune pour alimenter la propagande prostitutionnelle, vous nous aiderez vraiment, nous, les putes réelles, pas celles des romans, pas celles du cinéma? Vous nous aidez à changer de vie?
Voilà, donc je vais rebondir sur ce formidable témoignage lu par Johanna du collectif Abolition Porno Prostitution. Voilà, il y a un autre site qui est intéressant, qui s'appelle elsaimentça.com, et ce sont des jeunes femmes
qui ont vécu la prostitution, qui ont subi la prostitution et qui sont abolitionnistes, qui sont la plupart des, enfin pratiquement toutes les femmes en situation de prostitution veulent en sortir. Et en fait, elles expliquent justement qu'avec toute cette propagande terrible dont a parlé voilà, la femme de ce témoignage, toute cette propagande du système prostitueur que l'on trouve dans les médias, partout, quoi, en fait, ils sont invités partout, c'est difficile d'accéder aux arguments des abolitionnistes. Donc en fait, elles disent que les féministes radicales et les abolitionnistes leur avaient été présentées comme des coincées réacs, des femmes de droite, prudes et puritaines, méprisant le sexe et les femmes sexuellement libres. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, à la fac, dans les milieux de gauche, il y a vraiment un travail de diabolisation des féministes abolitionnistes. On les compare, on dit qu'elles sont d'extrême droite, etc. Du coup, ces femmes n'avaient pas accès aux arguments radicaux. Elles disent « Nous avions à l'époque une totale méconnaissance des dynamiques de pouvoir homme-femme, de la traite humaine, des dégâts de la prostitution sur le long terme. Étant très jeunes, nous-mêmes, et ayant été exposées très jeunes à la sexualité violente, nous n'étions que peu choquées par l'âge des prostituées. Nous n'avions par ailleurs pas intégré la distinction entre absence de consentement et absence de désir. Dans notre monde, l'absence de désir féminin était la norme. Enfin et surtout, il nous était impossible de réaliser la gravité des violences vécues par les femmes tant que nous n'étions pas capables d'empathiser avec nous-mêmes. Il nous fallait réaliser que ce que nous avions vécu et que ce que nous vivions était grave. Pour cela, il fallait sortir de la dissociation émotionnelle et de la banalisation des violences. Deux processus qui ne sont souvent possibles qu'à condition de n'être plus en danger immédiat et d'être confronté à des personnes bien traitantes. Ce qui explique aussi, oui, qu'il y ait, enfin, je connais ça en fait, il y a la plupart des femmes qui sont toujours en situation de prostitution, effectivement, pour ces raisons, ont du mal à accéder aux arguments abolitionnistes, ont du mal à se déclarer abolitionnistes en fait. Donc on va parler des violences masculines en général, je crois. C'était le dernier thème.
Oui. Oui.
Ça marche, oui. C'est bon.
Oui.
Oui, je lâche un peu. Ça me perturbe un peu ce
micro.
Oui. Donc en fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme le démontrent les études sur les stress post-traumatiques, les réactions ne sont pas les mêmes selon que l'on soit un homme ou une femme. Donc il y a quand même des différences qui existent biologiquement entre hommes et femmes. Bon, déjà, il y a quand même un dimorphisme sexuel. Et lorsqu'on voit éthologiquement, les mâles sont toujours plus agressifs que les femelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lutter contre ça, bien au contraire, la culture est là pour ça, en fait. C'est pour ça que c'est très important de réfléchir à comment sociabiliser les enfants pour que toute cette violence s'arrête et pour canaliser les plus violents d'entre des individus. Puisque, bon, on n'est pas... malheureusement, on n'est pas des anges, hein, on a tous... On a tous une certaine capacité à être agressif. Et bon, il semblerait que ce soit quand même plus présent chez les hommes. Et d'où l'importance de dénoncer toutes ces violences commises dans l'enfance, que les victimes parlent, et de sociabiliser les enfants de telle façon qu'ils n'aient plus à subir ce genre de violence et qu'ils n'aient plus à subir cette dissociation qui génère, qui reproduit ce système patriarcal. Et il faut savoir aussi que ethnologiquement, donc anthropologiquement, il y a les tribus qui sont guerrières, ont des rituels, chez d'autres peuples, ont des rituels aussi de violence, d'agression sexuelle chez les enfants. Également, ça crée vraiment une rupture avec l'empathie. On a une empathie naturelle les uns pour les autres. Et ces violences qui sont subies dans l'enfance génèrent cassent cette empathie et font qu'on peut devenir un guerrier dur, fort et écraser l'autre sans se poser de problème, sans avoir mauvaise conscience, quoi. Il y a des tribus où clairement il y a des rituels de fellation entre enfants et ça concerne les hommes, enfin les garçons. Jusqu'à un certain âge, les filles et garçons sont élevés par les femmes qui sont méprisées. Ce sont des peuples à très forte domination masculine. Il n'y a pas de patriarcat en tant que tel. Les femmes ne sont pas enfermées dans la sphère domestique, elles vivent entre femmes, etc. Mais il y a un vrai mépris pour le corps de la femme, un mépris pour la femme. La femme ne doit surtout pas regarder un homme dans les yeux, elle doit emprunter certains chemins et pas le chemin des hommes. Enfin, il y a vraiment une domination très forte. Et chez ces peuples-là, qui sont des peuples guerriers, il y a des rituels à partir d'un certain âge, à partir de 6 ans, si je me souviens bien. Les enfants, les garçons, sont retirés aux mères. Et il y a des rituels qui ne simulent pas. Il y a vraiment des fellations qui sont faites, quoi, par exemple. Voilà. Et ça crée, bien évidemment, des individus, ce que démontrent les études menées par Muriel Salmona, par exemple, qui démontrent bien que ça crée, en effet, ça casse totalement l'empathie qu'on peut avoir pour les autres et on peut les écraser sans aucun problème. Et donc, l'impunité de la masculinité se déploie donc dans la sphère domestique, mais aussi à l'extérieur, bien évidemment. Et, surtout, et c'est aussi pour ça que c'est difficile de parler. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à l'extérieur, la femme, je crois que c'est 70% des femmes ont peur d'être dans les rues à partir d'une certaine heure. Donc la peur, elle est quand même intégrée, quoi. On sait très bien qu'on vit dans une domination masculine qui peut être violente, qui est agressive et qu'on peut être violée à tout moment, en fait, quoi. Même si les viols sont dans la sphère privée la plupart du temps. Voilà. Le mythe du viol dans la rue, etc., ça arrive, mais ce n'est pas les cas les plus importants. C'est toujours quelqu'un qu'on connaît, souvent quelqu'un qu'on connaît et qui est assez proche, en fait, quoi. Donc voilà, pour valoriser les actions conquérantes, guerrières, l'insensibilité du tueur, son sang-froid, sa droiture. C'est le culte du guerrier qui est valorisé dès l'enfance par les livres d'histoire qui nous enseignent la vie des grands hommes, ces grands conquérants. Conquête territoriale, conquête intellectuelle, rationnelle, morale, tout ça c'est l'histoire des hommes bien évidemment. Les femmes ne savent pas ce que c'est que la raison, ne savent pas, enfin bon, ce sont des qualités typiquement masculines, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Donc voilà, ces conquêtes se font toujours au détriment et au mépris des autres peuples, des autres espèces, des femmes, de la féminité est toujours infériorisée. Déjà chez à Uruk, donc il y a 50 000 avant JC, donc le berceau de la civilisation, il y avait des hommes prostitués. Ils étaient bien évidemment considérés comme des femmes. La féminité est ce qui permet à la masculinité de s'exprimer et aux hommes de dominer. Il faut qu'ils écrasent la féminité. Donc ça, il va falloir l'inverser. En tout cas, il va falloir trouver un équilibre entre les vraies qualités qu'on attribue au masculin et les vraies qualités qu'on attribue au féminin. Et les femmes doivent apprendre, on doit apprendre aux enfants à dire non, et les femmes doivent apprendre l'autodéfense intellectuelle et physique. Je pense que c'est assez important. Donc, mettre en valeur des qualités telles que le soin, l'empathie, mais aussi l'autodéfense, la raison et le courage. Moi, je pense que c'est assez important pour tout le monde. Oui, oui, oui. Nous sommes tous des... Enfin, même si on a des différences biologiques qui existent, faut pas confondre dualité et dualisme. Dualisme, c'est vraiment une façon de percevoir le monde en hiérarchisant deux entités, comme le corps et l'âme, par exemple. Jérôme Bachet a travaillé là-dessus, c'était très intéressant. Alors que la dualité, c'est juste accepter le fait qu'on puisse être différent sans qu'il y ait de hiérarchisation. Voilà. Et il faut faire en sorte de sociabiliser les enfants, quel que soit leur sexe, avec de véritables qualités humaines, pour tous. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de domination, de dominant et d'écrabouillé, quoi. Et pour ça, bien évidemment, il faut dénoncer ce qui se passe dans le noyau familial, où on est censé être protégé et aimé, et où il y a malheureusement beaucoup de haine, et de domination et de violence.
Il faudrait que l'espace familial sorte du privé, quoi, que le privé devienne politique.
Et le non, privé est politique.
Oui, voilà, oui, c'est oui, ça, mais le privé est politique, mais dès qu'il se passe quelque chose dans le privé, la société n'en parle pas, enfin, ne le fait pas savoir.
Oui, il y a une impunité, oui, c'est sûr que... déjà, les victimes ont beaucoup de mal à parler, il y a toute une culture du silence. Entre les menaces, Si tu parles, enfin voilà, si tu parles, tu vas voir ce qui va t'arriver, ça va être encore pire. Ou si tu parles, tu vas aller en prison, ou la culpabilité. Donc on inverse les rôles. Au final, c'est comme le passage qu'on a, l'extrait du témoignage de Maïlé, quoi. Les monstres, on inverse. Les monstres, c'est pas ceux qui ont été agressés, en fait. C'est celui qui agresse. Et on le voit avec l'affaire Outreau. Des enfants ont été clairement reconnus comme victimes de pédophilie, de pédocriminalité. Mm-hmm. Et pourtant, on parle des adultes qui ont été... C'est incroyable, quoi.
Et il y a eu récemment un documentaire sur France TV qui donnait la place aux adultes qui avaient été victimes du procès, qui ont été acquittés et pas du tout. Tout le documentaire, encore une fois, ne parlait que des erreurs de justice par rapport à des hommes qui auraient été une injustice, enfin voilà, qui avaient été condamnés alors que qui ont été, je sais pas, je trouve pas mes mots, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Et pourtant les enfants ont été violés, donc où sont les violeurs, en fait? On sait pas, voilà, ils ont disparu. Donc il faut s'accabler sur le sort des hommes qui auraient été condamnés injustement, mais les violeurs de ces enfants courent toujours, et voilà, ça c'est pas grave, on n'en parle pas. On va conclure avec peut-être.
Oui, je pense que ça peut. Oui, si ça te va.
Oui, bien mm-hmm. sûr. Okay. Donc peut-être tu peux expliquer un petit peu ce que c'est.
Alors c'est un texte que j'ai écrit, que j'ai mis en musique, une lecture. On ne va pas s'entendre. Je pense que le texte parle de lui-même, je n'ai pas besoin de...
Voilà. Déjà, tu as bien travaillé sur ce texte. Et voilà, on va conclure. Je te remercie. Donc, on va... Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette émission. Je mettrai toutes les références dans le podcast. Donc, on ne va pas s'entendre de Anna Minsky. Et merci, Anna.
On ne va pas s'entendre, toi et moi. Et l'homme, rangeant son fouet, s'en allait, satisfait et très fier, sans voir, dans les yeux noirs et sous le front plein d'éminence, l'âme de la femme livrée à la vengeance. La menace, l'autorité, la violence détruisent nos vies d'enfants et d'adultes. Nos mémoires et nos corps sont saturés de ces mots d'ordre, de ces injonctions à la soumission. Quand un homme, auquel nous donnons notre confiance, en vient à vous les cracher au visage, mémoire et corps se cabrent ou s'effondrent. Il espérait obéissance, mais toute mon âme, malgré mes tripes nouées, mon cœur piétiné, mes larmes brûlantes, s'est dressée. Toute ma rage, mes souffrances enfouies, passées et à venir, se sont concentrées. J'ai bandé l'arc et j'ai tiré. La froide rationalité, celle de l'ordre mâle qui méprise les éclats d'affect, de souffrance, d'amour ou de joie, celle qui transforme l'espace public en combat pour coqs tenus en laisse, est l'ennemi de nos luttes. Contre elle, nous nous liguons. Aucune femme luttant pour ses droits ne doit être silenciée, méprisée, écrasée. Le crime de lèse-convenance est le couperet des privilégiés. Aucune femme luttant contre la domination masculine, ne doit être réduite à l'état d'hystérique, ni comparée à ceux qui la violentent. Nous ne voulons pas être polis, nous ne voulons pas être jeunes et jolis, nous ne ravalerons pas nos colères. Comment lutter pour nos vies? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Si nous acceptons que les bourreaux prennent le visage de la victime et se drapent d'une fierté offensée, les hommes, tous les hommes, ne sauront jamais ce que c'est qu'être née fille dans un monde dominé par des mâles en guerre. Quant aux femmes de droite, façonnées aux précieuses sensibleries de la société patriarcale, elles ne peuvent être des alliées. Souvenons-nous que beaucoup encore défendent les hommes au mépris des enfants et des autres femmes. La domination masculine nous façonne toutes et tous en vue de se reproduire et de se maintenir. il existe quelques rares hommes qui essaient de nous comprendre et aimeraient nous soutenir. Mais pour cela, encore faut-il qu'ils soient capables de ravaler leur orgueil, de faire un pas de côté, d'accepter qu'eux aussi reproduisent des comportements machistes. Il leur faudra beaucoup de courage, c'est-à-dire beaucoup de cœur, pour ne pas se laisser bercer par les flatteries homophiles qui érodent lentement toutes les convictions, et en premier lieu, celles qui concernent le combat des femmes. Il leur faudra beaucoup de courage pour accepter que l'intelligence du cœur, la seule intelligence véritable, ne peut exister sans compassion, respect et humilité. Et pour répondre à certains, notre sororité n'est ni lâcheté ni soumission, mais une question de vie ou de mort, et surtout une connaissance joyeuse, active et intransigeante. Nous avons tant à faire pour retrouver les chemins qui mènent à la tendresse du vivant.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continentes.